Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Fichée, avec un point d'interrogation, c'est le titre de l'exposition qui se tient actuellement aux Archives nationales à Paris. Un titre assez engagé qui raconte les liens entre la photographie, l'identification et la surveillance des individus. L'exposition, qui balaye le 19e et le 20e siècle, évoque les photographies de police qui recensent les criminels, les photographies anthropométriques qui ont eu un rôle dans la classification des individus, l'invention de la carte d'identité, le fichage des individus surveillés pour une raison ou pour une autre, prostituées, militaires, étrangers, espions, criminels, nomades, prisonniers et bien entendu, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la mise en place d'une politique de recensement des Juifs de France par Vichy qui s'appuie entre autres sur une carte d'identité devenue obligatoire et qui sera un des outils principaux de la déportation. Une exposition pour raconter comment le fichage des individus peut amener au vertige d'une société sous surveillance, d'un État qui veut tout savoir de ses citoyens et qu'il voudrait pouvoir parfois choisir. Avec nous pour en parler, Jean-Marc Berlière, historien, commissaire de l'exposition avec Pierre Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu envie de consacrer une exposition à cette notion du fichage, à cette notion de l'identité ?
Écoutez, il faut rendre justice à César ce qui lui appartient. C'est Isabelle Neugevander, directrice précédente des archives, et Pierre Fournier qui ont eu cette idée, qui m'ont contacté parce qu'ils savent que je passe ma vie dans les archives. Et en dépit du travail que ça représentait, que je ne mesurais pas totalement, je me suis lancé dans l'opération parce que j'ai un privilège. Mais j'aimerais bien qu'on sache que ça n'est pas un privilège. Comme historien, je passe ma vie dans les archives, mes congés, mes loisirs. Vous savez, je vais bronzer sous les néons de ces salles poussiéreuses, austères. Et beaucoup de gens considèrent que ce sont des bunkers qui sont réservés à des historiens sérieux, voire tristes et âgés. Et quand je sortais de ces séances d'archives, quand je sors de ces séances d'archives, comme je travaille beaucoup en ce moment, depuis une dizaine d'années sur la période de l'occupation, par exemple, je vous jure que je ne sais plus où je suis. Quand je sors, je suis étonné qu'il n'y ait pas des gazogènes dans la rue, je suis étonné de ne pas voir de patrouilles de soldats allemands et tout. Et ces archives sont tellement riches, on entre dans des histoires individuelles passionnantes, pas forcément de belles histoires. Hein. J'avais très envie de partager ça avec... Écrivant des livres, on partage en faisant des conférences, on partage en initiant des gens, des étudiants et tout, mais c'est quand même tellement mieux de montrer aux gens ce qu'il y a dans les archives, qui sont entourées de fantasmes multiples, et de leur permettre d'accéder à ces archives en leur montrant que les archives sont des lieux civiques et citoyens. Toutes les archives, et j'insiste là-dessus, qui sont exposées, sont en accès libre. C'est-à-dire que vous, les gens qui nous écoutent, peuvent parfaitement se rendre dans ces centres d'archives et demander. Alors évidemment, il y a une toute petite chose, c'est de la recherche des documents. C'est pas si simple de se retrouver, même pour les archivistes. Mais en dehors de ça, c'est parfaitement accessible. Et je crois que c'était mettre fin à une espèce d'égoïsme et de privilège que je souhaitais partager.
Oui, pour que les auditeurs se rendent compte, il faut dire que cette exposition est assez une grande exposition. Il y a plusieurs salles assez vastes et c'est une succession de petits morceaux de papier jauni, de feuilles arrachées à des formulaires multiples et variés, des petites fiches, des cartes, tout ça avec des petites écritures serrées d'administration, des photos de type photomaton et du 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc c'est une exposition qui a un aspect très inhabituel pour quelqu'un qui va voir une exposition.
Absolument, vous avez raison, il n'y a pas de prétexte esthétisant, j'allais dire, il n'y a pas de prétexte de beaux-arts, il n'y a pas d'œuvre d'art. Mais pour les gens qui acceptent la règle du jeu, c'est-à-dire qui entrent aussi, parce que vous savez, il y a une dimension profondeur dans ces archives. Quand vous regardez la photographie, le regard d'un petit gamin, Romain Michel, fiché dans 1913 ou 1914, quand vous regardez des photos de gens, même des criminels, même des marginaux, des prostituées, des trafiquants, il se passe plein de choses. Et les gens qui visitent m'ont souvent dit, on leur donne un livret de visite qui fait 200 pages, hein, qui leur explique le détail, mais qu'une fois qu'on entre dans le jeu, on est complètement aspiré par ces morceaux de vie. Et c'est ça qu'on voulait. Et puis, merci de l'avoir rappelé, le titre est à la fois engagé et ambigu, mais volontairement fiché ES, hein, et point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on voulait aussi tordre le cou à certains fantasmes. Alors, bien sûr, quand on va toucher à ce qui s'est passé en 1940-41 et au-delà, on est dans le drame absolu. Mais ce qu'on voulait aussi montrer, c'est qu'il y a d'autres dimensions dans ces archives. Je prends un exemple très, très singulier. On a été très surpris, Pierre Fournier et moi, de découvrir combien des gens photographiés dans des situations quand même un peu paradoxales, difficiles, parfois souriaient. Et on s'est posé la question, par exemple, à propos de femmes musulmanes. Alors certaines, quand c'est la femme d'un caïd ou de quelqu'un de très important dans la hiérarchie et la société musulmane des colonies françaises ou des protectorats français, il n'y a pas de photo. Il y a un mot écrit à la plume, femme musulmane, sous-entendu, ça justifie qu'il n'y ait pas de photo. Et puis d'autres fois, il y a la photo. Alors on sait bien que dans la religion musulmane, il y a un problème avec la représentation. En plus, c'est une femme. Puis en même temps, on est interpellé parce qu'on voit que ces femmes, elles sourient. Et on a fini par comprendre que ces femmes souriaient parce que quelque part, il y a un viol culturel, puis en même temps, il y a une affirmation, il y a une identité, il y a une existence. D'un seul coup, ces femmes qui ont le rôle et la place que l'on sait dans une société musulmane, en plus souvent au début du siècle, hein, enfin début du 20e, pardon, d'un seul coup, cette photographie l'a fait exister. Elle va avoir des papiers, elle va avoir un passeport éventuellement et tout, et elle accède ainsi à un statut qu'elle n'a pas dans sa société traditionnelle, ce qui peut expliquer l'air de contentement et de sourire. Vous savez, je pense souvent à Milan Kundera, qui a écrit dans l'insoutenable légèreté de l'être, une phrase qui m'a toujours frappé, c'est en gros, on partage ou pas cette opinion, mais moi il se trouve que je la partage un peu, notre seule immortalité, c'est dans les archives de police. Et je me disais quelque part, ces milliers de visages que vous voyez dans l'exposition, il y a des gens connus, je ne sais pas, Django Reinhardt, Picasso ou autres, puis il y a des milliers d'anonymes. Et d'un seul coup, ces anonymes dont tout le monde a perdu jusqu'au nom et la trace, sauf éventuellement des descendants qui vont découvrir, hein, leur famille, eh bien, reprennent une existence. Et ça, j'étais très... Enfin, c'est important pour moi dans l'exposition.
Alors si on en vient donc à la période de la guerre, cette période où les autorités allemandes demandent aux Juifs de se faire enregistrer en France en septembre 1940, dans les préfectures et les commissariats, on voit que c'est une opération qui a... plutôt bien réussi dès septembre 40. Il y a donc 150 000 personnes en région parisienne, 20 000 dans le reste de la zone occupée, qui effectivement vont se déclarer, et c'est le point de départ du fichage des Juifs en France.
Bien sûr, alors il n'existe pas, il n'a jamais existé, il n'existe toujours pas en France de statistiques et de critères ni ethniques ni religieux. Donc pour des raisons, bon, on ne va pas entrer dans un débat extrêmement intéressant mais qui dépasse le cadre de l'émission, est-ce que la nature fasciste ou pas fasciste de Vichy, en tout cas c'est un régime autoritaire, antidémocratique et qui a... on le sait bien, hein, qui s'appuie sur la répression d'un certain nombre de Français qu'on va rejeter de la communauté nationale pour faire vite ce que Maurras appelait l'anti-France et notamment les Juifs. Et donc il y a un antisémitisme, si j'ose dire, autochtone de Vichy, puis en même temps il y a les Allemands qu'on aurait bien tort d'oublier, vous avez bien fait de rappeler, ce sont eux donc qui imposent ce recensement. Alors moi j'ai été, mais il y a très longtemps, hein, moi aussi un petit peu surpris, parce que vous savez, on fait toujours de l'anachronisme quand on n'est pas historien, ou quand on est historien débutant, et puis on pense toujours à l'histoire par la fin, ce qui est une conception tragique et pas du tout scientifique. Les gens sont allés se faire recenser, il y a eu très très peu de gens qui n'y sont pas allés, pour des raisons toutes simples. La République française, alors je sais bien que Vichy n'est pas la République, mais était le pays qui les avait accueillis. Il faut sans cesse rappeler ce genre de choses. On a des milliers de témoignages de ces gens qui vont montrer à leurs petits-enfants liberté, égalité, fraternité. On oublie toujours que la France reçoit 300 000 étrangers dans les années 30, avec les conséquences qu'on connaît de xénophobie, de crise économique, de chômage. Ils ne sont pas acceptés ou très très mal. Mais où iraient-ils ? alors que ni les pays d'Amérique latine, encore moins évidemment l'Angleterre à cause du problème de la Palestine, et pas du tout les États-Unis. On connaît tous ce fameux mot de l'ambassadeur des États-Unis à Vichy qui reproche grosso modo à Vichy sa politique à l'égard des Juifs. Et le responsable dit à l'ambassadeur, si vous les voulez, on vous les donne. Et l'ambassadeur dit, non, déjà suffisamment chez nous. Il y a un vrai problème là. Mais les gens, ils sont allés parce qu'ils ont fait confiance à un pays qui les avait accueillis. Puis personne ne savait la suite de l'histoire, évidemment.
Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez relevé, c'est justement, jusque-là en France, il n'y avait pas de critères religieux dans la manière dont on avait d'identifier, de ficher, de recenser les personnes. Et là, avec Vichy, avec l'occupation allemande, arrive une manière de faire entrer un critère religieux, c'est-à-dire qu'on identifie les citoyens comme juifs. Donc ça, c'est une rupture avec la Troisième République.
C'est une vraie rupture, et en plus, je ne veux choquer personne, mais qui posait des problèmes, parce que qu'est-ce qui allait définir le juif au départ, on est parti sur des critères raciaux. On sait très bien qu'il n'y a pas de race juive, c'est n'importe quoi de ce genre de propos. Donc, vous connaissez sans doute ces fameuses lois que l'on appelle lois portant statut des juifs. Il y en a deux successives prises par Vichy de façon autochtone, indépendante des Allemands. D'ailleurs, les Allemands ne sont pas très contents que Vichy s'occupe de ce genre d'affaires. L'une de l'automne 1940 et l'autre du printemps du mois de juin 1941. Et dans les deux cas, finalement, la définition du juif, ça va être la religion des grands-parents. Et comme vous le disiez, comme Vichy va créer la carte la carte d'identité obligatoire, la carte d'identité de Français. Vichy n'a jamais, qu'on soit bien clair, mais ça je pense que tous les auditeurs le savent, n'a jamais imposé, au contraire, on voit bien les autorités de Vichy refuser l'imposition de l'étoile, et ça n'existera pas en zone qui restera la zone sud et le royaume du maréchal. En revanche, on va tamponner les papiers d'identité d'un gros tampon à l'encre rouge. Il faut que les lettres fassent 1 cm de haut, c'est sur lesquelles, qui portent la mention juif ou juive, et qui vont faire des dégâts, bien sûr, parce que les juifs, comme vous le savez, vont se trouver être interdits, marginalisés. On va leur interdire toutes sortes de choses, d'avoir une bicyclette, d'avoir un poste de radio, le téléphone, de fréquenter des lieux publics, une cabine téléphonique, un café, un cinéma, un square, quand on voit ces images terribles, interdits aux chiens et aux juifs. Le seul moyen que vont avoir les gens qui vont être en charge de vérifier l'application de cette législation, c'est bien sûr que ces gens sont marqués. Alors les Allemands vont les marquer, vous le savez, à partir du début juin 1942 par le port de l'étoile jaune, mais du côté de Vichy, on impose ce tampon. Et là, il y a un enjeu considérable.
Oui, d'autant plus que, alors bien sûr, l'initiative ne venait pas de Vichy, mais Vichy veut garder ses prérogatives. Et ce que les Allemands avaient commencé à faire, Vichy va vouloir le prendre en charge tout seul. Donc finalement, le recensement de 1941 des Juifs sera mis en place par Vichy.
Vous avez parfaitement raison. Vous savez, jadis, on présentait dans l'histoire de l'occupation, il y avait grosso modo les collaborateurs et puis les résistants et tout. Vichy, c'est très compliqué. Vichy, c'est pas forcément de la collaboration. Il y a souvent un antagonisme très dur entre Vichy qui veut faire respecter sa loi, sa légitimité, son autorité, vis-à-vis des Allemands. Et il y a une espèce de surenchère entre Vichy et, enfin, j'appelle Vichy le gouvernement de l'État français, qu'on soit clair, je n'ai rien contre les Auvergnats, et les autorités allemandes, avec ce que l'on ignore, des fois des clashs et de vraies ruptures, en tout cas des enjeux très très durs. Et le paradoxe de Vichy, ce qui est le pire, bien sûr, c'est cette surenchère dont vous parlez, c'est-à-dire pour montrer que nous sommes maîtres chez nous, nous allons nous-mêmes exercer alors la marginalisation des Juifs, la répression alors des communistes, des francs-maçons, etc. Alors qu'on voit bien que les Allemands ne sont pas du tout d'accord. C'est une intéressante... un de mes lointains prédécesseurs parlait d'une politique de gribouille. Pour s'opposer aux Allemands, on fait le travail à leur place.
Alors, donc, ce recensement qui se fait sur le principe de la déclaration volontaire, entre autres, va amener à la création de 3 fichiers qui répartit les Juifs français, les Juifs étrangers, les entreprises juives. Donc, puis une succession de tentatives de création de fichiers juifs, de fichiers des Juifs de France. Et ce sont ces fichiers qui seront l'instrument principal de la déportation ensuite.
Absolument. Alors malheureusement, il faut reconnaître que ce fichier qu'on appelle souvent le fichier Tullard, c'est-à-dire celui de la préfecture de police qui concerne la communauté juive la plus importante et de très loin, hein, était un objet remarquable sur le plan de... me comprenez bien, sur le plan de l'administration, c'est ça, de la bureaucratie. Songez que chaque personne était fichée quatre fois, c'est-à-dire qu'il y avait quatre entrées. Il y avait une entrée nominative, hein, par l'état civil, il y avait une entrée par l'adresse, il y avait une entrée par la nationalité, parce que Vichy a procédé à une dénaturalisation massive d'un certain nombre de juifs qui étaient arrivés en France et qui avaient été naturalisés français, et puis par profession. Donc on pouvait trouver un boucher bulgare habitant le 13e arrondissement, rue Pascal, sans problème. Et ce fichier, comme vous l'avez bien dit, est un instrument essentiel à la répression. On peut raisonner à l'envers, si vous voulez, et constater par exemple que, comme vous le savez sans doute, hein, l'Italie sort de la guerre, toute la partie qui était administrée par l'Italie et par l'armée italienne, c'est-à-dire grosso modo le sud-est, une région qui irait de Grenoble à Nice. Les Italiens s'en vont, les Allemands les remplacent. Et dans le domaine de la politique antisémite, c'est Alois Brunner, ce Viennois ignoble qui a dirigé Drancy, qui arrive à Nice parce qu'il sait qu'il y a énormément de Juifs réfugiés dans la région. On les estime, évidemment, c'est une estimation, à 30 000. Il arrive dans un moment où, pour des raisons diverses, Laval et le gouvernement ont décidé de ne plus collaborer à cette politique anti-juive. Donc on ne lui donne ni les fichiers, ni l'administration, ni la police, ni les gardes champêtres, ni... Il doit se débrouiller tout seul. Il se débrouille en tapant au faciès, comme on dit. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'est arrêté le père de Serge Klarsfeld, hein, à Nice. Mais, et qu'on comprenne bien mon propos, hein, sur 30 000 personnes, en 3 ou 4 mois, il en arrête 3 000. On imagine les dégâts qu'il aurait fait s'il avait eu à sa disposition les fichiers. Alors j'allais dire, on peut raisonner à l'envers. Effectivement, sans fichiers, ben les Allemands, ils sont pas très bons. Sans l'administration française, ils sont pas très bons parce qu'ils sont très visibles, parce qu'ils connaissent pas le pays, parce que... Et pourtant, ils ont utilisé des informateurs juifs, des indicateurs, des gens qui abordaient les gens dans la rue en leur disant en yiddish s'ils avaient leur demandant du feu ou des choses comme ça pour se trahir. Mais en dépit de ça, en 3-4 mois, 3000 personnes. Alors quand on imagine ce qu'ont été les rafles parisiennes, c'est sans commune mesure.
Alors il faut évidemment évoquer aussi la question de l'après-guerre, c'est-à-dire que vous le montrez très bien en exposition, à la Libération, tous ces fichiers, alors pas uniquement les fichiers qui concernent les Juifs, mais les fichiers en général, même qui considèrent toutes les administrations de Vichy, vont être utilisés à l'envers, pour retrouver les personnes, savoir ce qu'elles sont, de ce qui était advenu d'eux, et puis aussi retrouver les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation de ces fichiers à rebours.
Je vous remercie d'insister sur ça, parce qu'on y tenait beaucoup. Effectivement, l'un des paradoxes, c'est que ces fichiers, qui sont des fichiers de répression, vont être bizarrement des fichiers qui vont permettre... Quand on l'espère, on n'a pas toujours réussi à identifier aussi bien des victimes que des rescapés. Et comme on n'avait pas de photos, la seule photo dont on disposait, c'était des photos anthropométriques prises par les services de police français ou allemands. A contrario, d'ailleurs, c'est très intéressant et frappant, hein, on voit bien que à partir de 1941, les Allemands ont déjà intégré, contrairement à ce qu'on dit parfois, l'idée de solution finale, la question juive, puisque il n'y a pas de photo des Juifs déportés. Alors que les communistes, les asociaux, les trafiquants de marché noir, tout ce que vous voulez, les souteneurs, ont leurs trois photos. D'ailleurs, c'est intéressant, les Allemands n'opèrent pas de la même façon que les Français. Il y a une photo de face, de profil, mais il y a une photo de trois quarts. Et il n'y a pas de photo sur les fichiers juifs.
Alors justement, peut-être on peut évoquer, avant de finir, alors pas encore tout de suite bien sûr, mais la question du fameux fichier juif, qu'on croit souvent à tort être le fichier mis en place par Vichy, justement. Et ce fichier juif, en fait, est le fichier qui a regroupé les personnes qui ont été déportées, qui ont été emprisonnées.
Oui, vous voulez parler du fichier qui est propriété des Archives nationales, voilà, qui est déposé au mémorial de la Shoah. Voilà. Oui, vous avez parfaitement raison, contrairement... Enfin, on va oublier ça, mais la polémique qui était née au moment où Serge Klarsfeld avait ressorti le fichier en disant « voilà, j'ai le fichier juif », n'était pas tout à fait honnête parce qu'il savait que ce n'était pas le fichier juif. Hein. Ce sont en fait, alors ce fichier, ce sont des bribes de fichiers multiples et divers, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'homogénéité dans les fiches, les couleurs, etc. Et qui ont servi au ministère des anciens combattants à effectivement essayer de retrouver des victimes et puis à justifier des droits. Parce que je vais un tout petit peu, si vous me le permettez, sortir mais à peine de notre sujet. Les gens ont souvent l'impression en France, dans un domaine qui est très proche, qui est celui de la déportation de répression, pas de la déportation raciale, qu'il existe une équation déporté égale résistant. En fait, soyons clairs, des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de gens ont été déportés pour des raisons de marché noir, de proxénétisme, que sais-je encore. Moi, j'ai des déportés qui sont les pires crapules de la police aux questions juives. Ils sont morts en déportation. Leur famille, après-guerre, a demandé le titre de mort pour la France, des indemnités et tout. Heureusement qu'on avait ces fichiers. Ça a choqué à l'époque que ces fichiers existent encore. Mais je crois que c'est essentiel pour une administration et pour un pays de distinguer qui a fait quoi. Enfin, il y avait tout un passé à remettre en place, hein, bien sûr.
Alors, vous évoquiez, Jean-Marc Berlière, justement, ces questions de la question de la photographie, de ces photographies qui sont très présentes dans l'exposition. Justement, dans cette période qui touche la libération, ce qui est frappant, touchant, c'est de voir que les photographies qu'on utilise pour retrouver, pour rechercher les déportés, sont des photographies non plus administrative, mais des photographies de l'intime familial. On ressort les photos de famille pour retrouver des gens.
Chaque fois qu'on a pu, oui, bien sûr, un petit peu comme ce que fait Serge Klarsfeld au Mémorial et dans ses publications, il est terriblement important de redonner un visage aux victimes. Et effectivement, vous avez vu, on a choisi ce document, mais on aurait pu en choisir des milliers d'autres, mais de ce juif bulgare qui est déporté, je connais très très bien l'histoire, qui m'avait bouleversé, et c'est pur hasard que Thomas Fontaine, qui a choisi ces documents, ait choisi celui-là. Un juif bulgare qui, alors donc, puisque la Bulgarie est alliée de l'Allemagne, n'est pas déportable et n'est pas déporté, qui cache sa femme et ses enfants de façon très très efficace et qui est la victime d'un escroc qui lui explique qu'il a les moyens de faire passer sa famille en Espagne ou au Portugal. Et donc, il leur fait confiance. Alors, imaginez les crapules. Hein, et sa femme et ses enfants sont arrêtés à Hendaye. Lui, l'escroc, la crapule, je n'ai pas réussi à l'identifier. Je ne connais que son pseudonyme. A touché la prime de la part des Allemands. Enfin, bref, c'est quelque chose d'abject. Et ce juif bulgare qui, à son tour, a été déporté tardivement, est revenu vivant d'Auschwitz et il n'a cessé. Moi, je suis complètement bouleversé quand je vois la photo de ses deux enfants. En 49, il espère encore, alors qu'il revient d'Auschwitz, je veux dire qu'il sait bien que c'est pas raisonnable de sa part, mais il envoie ses bouteilles à la mer en espérant qu'effectivement que des photos de plus de gamins qui ont 8 ou 9 ans, donc si, même s'ils avaient survécu, ils auraient terriblement changé physiquement, hein. Je crois qu'on est complètement là au cœur de l'exposition. C'est pas des archives qu'on montre, ce sont des vies, hein, ce sont des drames. Il y a toute cette dimension humaine qui nous a paru terriblement importante.
Et puis on trouve aussi cette phrase dans le catalogue qui est très riche, très intéressant, très complet de l'exposition. Cette image des fichiers qui deviennent des lieux de mémoire. Alors peut-être en un mot, on a presque terminé cette émission, c'est une notion intéressante de voilà, considérer que ces fichiers qui sont ce qu'il y a de plus sec, hein, c'est l'administration, peuvent devenir des lieux de mémoire d'une certaine manière.
Oui, c'est aussi un petit peu comme dans un domaine différent, le mur des noms. Quoi. Les gens existent parce qu'on retrouve trace de leur existence dans ces fichiers. Vous avez raison, il y a quelque chose d'encore plus émouvant et d'intéressant et de paradoxal.
Merci encore. Je rappelle Jean-Marc Berlière donc, que l'exposition Fichier, donc vous êtes un des commissaires, se tient. Alors jusqu'à quand est-ce qu'on peut la voir aux Archives nationales?
Alors, officiellement jusqu'au 27 décembre. Mais ce matin, j'étais avec le co-commissaire sur une radio suisse romande. Et en fait, le succès est tel et la fréquentation est telle qu'elle sera au moins prolongée jusqu'à la fin des vacances, des congés scolaires de Noël. Et c'est en passe de battre tous les records de fréquentation. Et c'est quelque chose de vraiment important parce que, comme vous le rappeliez, elle est quand même extrêmement austère, mais en même temps à voir.
Et passionnant, tous ces visages lui donnent de la chair malgré tout. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette exposition qui se tient donc aux Archives nationales rue des Quatre Fils à Paris. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.